C'est l'heure de votre émission humanitaire Faboudirène ou la solidarité en langue peul. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la situation humanitaire s'améliore peu à peu dans la région de Menaka. Au même moment, dans d'autres localités du pays, les déplacés internes demandent plus d'assistance.
La campagne agricole 2023-2024 est terminée. Comment sauvegarder sa récolte et ne pas tomber dans l'insécurité alimentaire? Notre invité du jour nous donnera sa recette.
Notre proverbe du jour nous amène à Tominia et c'est pour parler de cette expression bambara qui dit « Répondre au coup de pied d'un âne, c'est se comparer à lui ». Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à la présentation de cette demi-heure d'information. Amsitou Gogo Touré et Mariam Maïga. La technique est assurée par Ibrahim Sanogo. Alors Mariam, c'est comment week-end, ça se passe bien?
Ben, on est là, on s'accroche et comme tu le sais, l'information ne connaît pas de repos. Et à Studio Dharmani, la bonne information est également une manière pour nous d'aider la population.
Exactement Mariam, et comme annoncé dans le sommaire, nous allons parler de la situation humanitaire qui s'améliore à Menaka. La région a bénéficié de 200 tonnes de riz du gouvernement. La distribution a commencé le 12 février dernier dans la ville.
Sur place, la population salue l'initiative des autorités du pays. Au même moment, dans d'autres localités, la situation humanitaire reste difficile selon des habitants.
Et ceci invite le gouvernement et ses partenaires à plus d'efforts. Plus de détails dans ce magazine avec Khalifa Goïta et le concours de nos correspondants.
À Menaka, c'est le cercle de Tindermen à travers les communes de Tigeret, Alata et Inita qui était à l'honneur pour la distribution des 200 tonnes de riz. Au total, 4000 bénéficiaires sont ciblés par cette aide dans la région. Les populations sont reconnaissantes du geste des autorités et demandent la pérennisation de l'acte afin d'assurer la sécurité alimentaire.
L'aide, ça sert quelque chose, donc on remercie les autorités. Même si c'est peu, on souhaite qu'ils vont ajouter.
Très ravis du geste du gouvernement, puisque depuis 2012, Menaka est confronté à des difficultés. Tout est dur.
Le don est venu au bon moment. Pour une ville qui vient juste de quitter un grand blocus, c'est loin d'être suffisant.
Le lancement de cette distribution a eu lieu en présence des autorités régionales de Menaka et des maires des communes concernées. C'est dans ce cadre que le maire Foratai Ag Eto de la commune d'Alata a exprimé toute sa satisfaction. Il pense que c'est le fruit de leur combat en faveur des populations, surtout des personnes déplacées internes depuis longtemps.
Je n'ai qu'à remercier les autorités maliennes parce que quand on parle de sécurité alimentaire, ça c'est l'État, ce n'est pas les ONG. On est obligé parfois de se chamailler, mais c'est pour redresser et faire de bons travaux. Je n'ai pas beaucoup à dire, sauf remercier tous les responsables de Menaka, tous ceux qui nous ont aidés à être là aujourd'hui. Devant nos populations PDI qui sont là, grâce à Dieu.
Au centre du pays, plus précisément à Yuwaru, la situation est tout autre. Sur place, les déplacés demandent plus d'assistance. Alassane Diko, responsable du site, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités, des ONG et des personnes de bonne volonté à leur venir en aide.
Depuis que nous sommes venus ici, bon, le gouvernement qui nous a assisté avec une centaine de 20 tonnes, nous sommes avec beaucoup de difficultés, même hier, là, il y avait eu des dégâts encore chez nous. Il y a un certain qui nous a assisté avec 5 tonnes de riz. C'est ça que nous avons eu d'abord. Je suis avec 400 ménages ici et quelques tellement dérangés ici. Là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de location. Ils sont sur le terrain des sites comme ça. Nous avons besoin beaucoup d'aide, de nourriture, tout ce que vous pouvez nous aider là, il faut nous aider.
Dans la ville de Kuchala, des habitants indiquent que l'accès aux denrées alimentaires est facile. Selon eux, il faut maintenant veiller au prix des denrées pour le bonheur de toute la population.
À Kuchala, on peut triguer dans l'ensemble, ça va. Mais il peut y avoir une contradiction. Le denrée alimentaire quand même est au marché, mais du côté financier, le prix quand même, c'est cher un peu par rapport aux années précédentes. Nous sommes au mois de février. Quand on prend le prix et le petit mille, ça va dans les 225 francs. C'est un peu cher.
C'est un peu facile maintenant. On a aussi les légumes qui sont disponibles. Les céréales, leurs prix n'ont pas changé. On peut les avoir également. Les kilos de riz, c'est à partir de 500 francs.
On peut dire que c'est coussi-coussa. C'est que l'État va tout faire pour que les produits doivent avoir des prix abordables quand même.
La campagne agricole 2023-2024 annonce une bonne moisson dans certaines localités du pays. Dans la région de Ségou, par exemple, on note un bon bilan de production du riz. Écoutons les explications du directeur régional de l'agriculture, Amadou Sogoba.
Nous avons une production de riz estimée à 838,257 tonnes. Cette production, comme vous le savez, ça englobe toutes les structures. Il y a l'office du Niger, il y a l'office du riz et il y a la DIRA. Chez nous, le besoin alimentaire en riz, en ce qui concerne Ségou, est estimé à 188,658 tonnes. Ça, c'est en compte tenu de la population de Ségou, avec les normes de la FAO également.
Monsieur Sogoba encourage les populations à éviter certains comportements pour faciliter la sécurité alimentaire dans la région, voire sur le plan national.
On a dit le besoin alimentaire par population, il faut l'estimer à 214 kg par personne et par an. Normalement, chaque famille doit calculer ses besoins. Mais généralement, les familles peuvent vraiment se retrouver au rouge. Le cas de Ségou, par exemple, quand on prend la zone au fil du Niger. Dans l'année, il y a des gens qui viennent des pays voisins acheter du grain. Donc ça, c'est des cas, si ce n'est pas contrôlé, ça peut jouer sur notre vraiment excellent céréalier disponible pour les consommateurs. Il faut élaborer des mesures sécuritaires. Il faut une sensibilisation également des producteurs pour qu'ils puissent tenir compte de leurs besoins familiaux.
À noter que sur le plan général, la campagne agricole s'annonce prometteuse et déficitaire par endroits dans le pays. Des observateurs préviennent que la situation humanitaire doit attirer l'attention des décideurs afin de prévenir tout risque d'insécurité alimentaire.
Et ce jingle nous amène dans la rubrique Invité. Et cette semaine, nous partons à la Direction nationale de l'agriculture pour aller à la rencontre de Souleymane Yakouba.
Effectivement, nos reporters Aïssata Diarra et Draman Maïga se sont entretenus avec lui pour faire le point de la campagne écoulée.
Notre invité est M. Souleymane Yakouba, directeur national adjoint de l'agriculture. Bonsoir, monsieur le directeur.
Bonsoir, monsieur Maïga. Je vais bien.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, c'est un plaisir pour moi.
Dans certains endroits, la campagne est déjà terminée. Quel est le point, la situation en général?
Vous savez, chez nous, l'économie est essentiellement basée à 80% sur la production agricole. La production agricole avec grand A. C'est dans ce cadre-là que pour la campagne, les dispositions ont été prises pour effectivement minimiser les effets néfastes du dérèglement climatique. Nous avons constaté ces derniers moments que toutes les années qui se suivent, il y a toujours un décalage dans la mise en place de la pluviométrie. Quand nous avons amorcé la campagne agricole, nous avons déjà anticipé sur des difficultés. Les années passées, dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention des intrants, dans la gouvernance et l'organisation, on a constaté qu'il y a des défaillances. Et si on organise, on trouvera qu'au moment où les gens ont besoin de l'engrais, ça trouvait que les dispositions techniques et administratives on fait que souvent, ils n'arrivent pas à avoir l'engrais à temps. Nous avons pris les dispositions et nous avons bouclé le système, en tout cas, de cette mise à disposition à temps. À partir du mois de juin déjà, nous avons pris toutes les dispositions pour que l'engrais soit mis à la disposition des producteurs. Par rapport aux besoins, on sait que ce n'est pas suffisant parce que les besoins sont énormes. Le pays est très vaste. Et ces dispositions et cet appui ont permis, en tout cas, de minimiser l'impact néfaste du retard de la pluviométrie dont l'exploitant agricole et le secteur de Bandiagara a fait cas.
Alors, avec toutes ces initiatives aujourd'hui, quel est le point de la campagne agricole?
Ok, j'en viens. Voilà. Nous sommes arrivés pour la production céréalière à plus de 9 800 000 tonnes. C'est une prévision d'environ 10 800 000, soit 90% de nos objectifs. D'accord. Donc, ce qui est déjà, en tout cas, les principales spéculation des principales cultures, notamment les mille sorgho, le maïs, le riz et d'autres céréales. Nous avons aujourd'hui, pour les résultats de l'enquête agricole de conjoncture, nous sommes à 9 800 000 tonnes de céréales disponibles. Et la campagne continue également parce que nous avons et la campagne et la contre-saison. La contre-saison, c'est sur le riz. Donc dans les offices et certaines régions comme Tombouctou, il y a une contre-saison du riz qui vient combler encore.
Alors, comment s'adapter au rendement de la terre pour assurer la sécurité alimentaire selon vous?
Ce n'est pas une exploitation ni agriculture de subsistance. Nous allons à une agriculture de profit, de rente. C'est pourquoi, au niveau de la Direction nationale de l'agriculture, avec l'Institut d'économie rurale et d'autres partenaires, des technologies ont été développées pour permettre, non seulement en termes des intrants de semences, d'avoir des semences à haut potentiel productif, et également d'appliquer des techniques culturelles qui permettent, en tout cas, d'extérioriser ce potentiel. Et nous avons aujourd'hui des semences qui sont bien adaptées dans notre zone, qui ont été mises en œuvre, homologuées, cataloguées par l'IER, qui sont vraiment adaptées à ce dérèglement climatique. À ceci, je vous ai parlé aussi des techniques, par exemple, anti-érosives, certaines techniques comme le trempage des semences pour améliorer un peu la germination. Et nous avons d'autres technologies aujourd'hui qu'on est en train de développer. Et on a un vaste programme qu'on appelle le programme national du système de riz intensif, le PEN-SRI. C'est un programme aujourd'hui qui permet d'appliquer une technologie sur le riz qui lui permet de consommer moins d'intrants, moins d'eau et donner une production importante. Et ça, ce sont en tout cas quelques technologies. Et nous essayons de voir comment adapter et la production agricole à la mécanisation. Nous avons vu seulement la population augmente, les besoins augmentent, et avec les moyens traditionnels, il est très difficile de répondre aux besoins des populations. C'est pourquoi nous avons en tout cas un vaste programme aussi de mécanisation de l'agriculture.
Fin de la première partie de cet entretien avec Souleymane Yacouba, directeur national adjoint de l'agriculture. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien. À présent, notre rubrique Sketch avec Zabi Atou et Hamadi.
La récolte fut bonne pour Hamadi. Satisfait de sa moisson, Hamadi a un projet en tête. C'est de se faire de l'argent en vendant une partie de sa récolte.
Bonsoir Zabiatou.
Bonsoir Hamadi. Comment vas-tu? Et en famille?
Oui, tout le monde se porte en merveille. Alhamdoulilah, nous mangeons bien, car les récoltes ont été bonnes.
Ah, ça se voit que ma copine t'a fait du bon thé ce midi. Je viens de faire un thé. Viens prendre le premier.
Zabiatou, merci pour cette énergie de plus. J'en ai besoin pour mon trajet vers Dougoudian.
Eh, bismillah, tu déménages ou quoi? De la manière dont ta charrette est pleine, j'en déduis que ce n'est pas pour y passer juste une nuit.
Non, toi aussi. Dans la charrette, c'est juste quelques sacs de riz, de mil et un peu de maïs et d'arachide. Et rassure-toi, demain c'est la foire de Dougoudian. Donc j'en profite pour me faire un peu de sous.
Hé hey Hamadi, je t'ai porté absent hier à la maison. Ta femme m'a dit que tu étais à la foire de Dougouba. Et ce soir, tu te diriges vers une autre foire. Tu vas vendre tous ces céréales, pourquoi?
Ah Zabiatou, ta question est déjà répondue. Mais si tu insistes, je le répète, je vais me faire un peu d'argent.
Gagner de l'argent, pour ensuite faire quoi? L'année dernière, Bamoussa a fait une très bonne moisson après la récolte de son champ des mille. Il ne faisait que vendre, notamment à Ousse le boutiquier. Il s'est fait beaucoup d'argent. La suite de l'histoire est connue de tous. Bamoussa a fini par s'endetter pour pouvoir nourrir sa famille. Pire, il achetait les culots du mille à 500 francs. Devine chez qui? Chez Ousse, à qui il avait vendu le sac de 100 kg à 15 000 francs, soit à 150 francs le kilo. Hamadi, hé Hamadi!
Oui?
Tu ne parles plus?
Ah, j'étais perdu dans mes pensées. Ton discours m'a fait peur. C'est vrai que je veux gagner de l'argent, mais dans la plupart des cas, c'est encore pour acheter des vivres.
Alors, maintenant?
Je retourne à la maison. Je vais bien réfléchir. Faire un bilan de la campagne, stocker une quantité suffisante. Après, je vais voir s'il en reste pour la vente.
Voilà qui est bien réfléchi. Maintenant, prends ces feuilles de patates douces et dis à ma copine de te faire une bonne sauce ce soir. J'enverrai tes enfants récupérer ma part.
D'accord.
Tu n'attends pas le deuxième?
Non, c'est bon, Zabiatou. Après le dîner, madame va me faire un thé meilleur.
Ha 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 ha. Merci, merci à Zaviatou et Hamadi. Nous retrouvons à présent notre invité Souleymane Yacouba, directeur national adjoint de l'agriculture. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de comment sauvegarder sa récolte. Et l'entretien est réalisé par nos reporters Aïssata Diarra et Dramane Maïga.
Nous retrouvons notre invité Souleymane Yacouba, directeur national adjoint de l'agriculture.
Notre mission au niveau de la direction nationale de l'agriculture et tous les services techniques concernés, c'est de pouvoir faire en sorte que les exploitants agricoles vivent de leur activité. Ça veut dire quoi? Il faut que nous les formons aujourd'hui pour savoir gérer ce qu'on appelle le compte d'exploitation agricole. Parce qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise. Il faut gagner de ce que tu fais. C'est pourquoi nous les formons aujourd'hui à savoir faire et pouvoir calculer ce qu'ils mettent en tant que dépenses pour produire en tout cas les céréales ou les productions agricoles. Ça vraiment, c'est aujourd'hui une des locomotives au niveau des vulgarisations. On est demandé de ne pas produire pour brader les récoltes.
D'accord. En plus de la gestion dont vous venez de parler tout de suite, vous avez parlé aussi des initiatives que les autorités ont prises. Comment un paysan peut accéder à ces initiatives?
Nous sommes représentés partout sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons développé ces thèmes, ces technologies, c'est pour former nos producteurs à pouvoir les utiliser afin d'optimiser leur activité.
Vous partez vers eux ou bien
c'est à eux de venir? Nous partons à eux. Et nous faisons des démonstrations, parce que généralement, c'est comme chez des champs écoles, paysans chez nous. Quand nous voulons faire introduire une technologie, nous faisons ce qu'on appelle des champs écoles, paysans, où nous démontrons la technologie. Donc les paysans, ils croient plus ce qu'ils voient que ce qu'on lui dit. Et tout producteur exploitant qui a besoin d'un appui peut s'adresser à l'agent de l'agriculture ou l'État a placé dans un secteur ou sous-secteur.
Est-ce qu'il y a des astuces pour mieux conserver et stocker les céréales?
Bien évidemment, même avant ça, nos grands-parents avaient en tout cas des méthodes où ils conservaient bien leur production agricole contre les ennemis de culture dans les magasins. Pour nous, même les denrées stockées constituent aussi des activités qu'il faut protéger. Nous avons des services, on avait des services phytosanitaires qui les forment dans le cadre même du conditionnement. Pour ce faire-là, on a déjà des thèmes de formation pour les dimensions du magasin, les palettes qu'il faut mettre dans le magasin et quelles sont les dispositions phytosanitaires qu'il faut pratiquer qui sont aptes, qui ne sont pas nuisibles. Et même dans le transport, aujourd'hui, nous avons constaté qu'au niveau de la récolte, il y a des pertes d'environ 15, 20 à 30% de la production lors des récoltes. Parce que les outils de récolte ne sont pas adaptés, de telle sorte que nous faisons de grandes pertes. Tout ça, là, nous avons développé des thèmes pour voir comment on peut diminuer, en tout cas, ces pertes pendant la récolte et les pertes post-récolte.
Alors, bien vivre la campagne agricole, surtout au moment des récoltes, et préparer la campagne prochaine. Un conseil à donner aux paysans agriculteurs qui vous écoutent actuellement.
Merci, Monsieur Mega. Je pense que chaque fois que nous faisons ces activités, pour l'année en cours, nous préparons déjà l'année prochaine. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle le plan de campagne. À travers ça, nous avons en tout cas des rencontres avec tous nos partenaires. Nous faisons en tout cas un recensement, parce qu'avec les épargnes dans le milieu rural, il faut, c'est comme on dit, c'est une course de fond sans fin. Et maintenant, tu as déjà une idée de qu'est-ce que tu dois produire l'année prochaine. Parce que nous, on les a formés. On a même une activité, un projet qu'on appelle le CHEP. C'est l'agriculture orientée sur le marché. On ne produit pas pour chercher à vendre. On cherche les besoins et on produit, on livre. Donc, dès lors qu'ils ont cette idée-là, maintenant, ils ont commencé déjà à voir maintenant quels sont potentiellement mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle quantité. Et dans cette optique-là, maintenant, ils vont déjà faire ce qu'ils appellent leur propre plan de campagne. Donc, maintenant, nous leur demandons maintenant quels sont tes besoins en semences, en engrais, en produits phytosanitaires et en besoin maintenant financier pour mener les activités culturelles, les labours. Donc, pour tout ceci-là sont des thèmes que nous développons tous les jours avec les producteurs et ils ont accès à tous nos services.
Merci beaucoup, M. Souleymane Yacouba. Je rappelle que vous êtes directeur national adjoint de l'agriculture.
Maintenant, place à la rubrique artiste invité de la semaine. Et cette semaine, nous sommes avec un artiste qui a beaucoup fait danser les Maliens dans les années 2004.
Exactement, il s'appelle Ibrahim Djadji Napo, un natif de Direi, effectivement un Napo qui se retrouve à Direi dans la région de Tombouctou. Notre reporter Kwan Diarra a échangé avec lui.
Safina suro dibire donna sanjiva de nana torchiko le kage isabete yara billema parini bamago kaja yoro teje ni dianya wache tiado ne ba fe yoro teje ni dianya wache.
Je suis sûr que nos auditeurs ont compris et ont aimé la voix sublime de Ibrahim Djadje Napo. Alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui fait que qu'on vous voit très rarement sur la scène actuellement?
Ce qui fait que j'étais vraiment perdu sur la scène musicale. Mais après la sortie de Sans Fina, une semaine après la sortie, j'ai eu des problèmes. J'étais vraiment malade. Je suis une très longue maladie. Couché, j'ai fait 2 mois, 17 jours à l'hôpital du Point G. Donc une fois qu'un artiste quand même est malade, c'est pas facile d'être sur la scène. Donc ce qui fait que j'ai vraiment disparu sur la scène musicale.
Bien, dites-nous, comment est-ce que Ibrahim Djadje Napo est venu dans la musique?
Bon, en fait, je peux dire que la musique, c'est quelque chose qui était dans la famille, parce que ma grand-mère, la maman de ma maman, à son âme, c'était l'une des meilleures voix de Gundam. Mais être un musicien pour pouvoir être connu par le monde entier, c'est ça qui m'a vraiment aidé sur ça, parce que je chantais dans la rue. Je gérais une cabine téléphonique en 2000 au niveau du Club Lenny. Donc un jour, l'une de ma cliente est venue du Quai Ibrahim. Chaque fois, je te vois entouré par des musiciens, des chanteurs. Toi aussi, tu chantes souvent. Maintenant, j'ai une scène qui devrait se marier. J'aimerais que tu viennes faire l'animation. J'ai dit, bon, c'est pas facile. C'est une chose que j'ai jamais fait. En tout cas, j'aime la musique. Je chantais à Gundam, mais ici, j'ai pas encore commencé. Il dit, non, il faut essayer. Et je suis parti. J'ai fait ça. Vraiment, beaucoup donné. Ça s'est fait en 2000. Le 26 octobre 2002.
Alors, comme dans tout métier, hein, nous savons qu'il y a des difficultés. Alors, M. Napo, expliquez-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la musique.
Bon, Dieu merci, par mon entourage, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Parce que pour être un chanteur d'abord, il faut oser avoir la voix, écouter les autres. Donc, de faire ma propre composition, c'était une chose qui n'a pas été difficile pour moi. Parce que c'est un travail que j'ai beaucoup aimé depuis à bas âge. Donc, à arriver ce Chalifou aussi, il y avait des grands, Djili Moussa Kouyaté, Sekouba Bamino. J'ai fait le monde, il faisait Djarabi Triomphe. C'est la même période, quand lui rentre à 7h du matin, il est à 22h, je rentre dans le studio à 22h jusqu'à 10h du matin. Avec Djili Moussa Kouyaté, beaucoup de stars étaient là-bas. Par leur soutien, vraiment, je parviens à sortir. J'ai fait un album qui a vraiment fait du succès. Il fera ça en soirée.
Depuis là, vous êtes à combien d'albums actuellement?
Donc depuis là, j'ai beaucoup de singles, mais je n'ai qu'un seul album qui a été sorti le 1er octobre 2004. Bon, à Ifara, je sens sur ma vie privée, même les travaux différents que je fais. J'ai dit, j'ai vendu de l'eau fraîche. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Nigeria, Niger. Ça n'a pas marché. Donc après, je suis venu à Bamako aussi. J'ai ramassé des ordures. Bouljaya, je faisais la première personne qui ont fait. J'ai fait 2-3 ans. Donc c'est après qu'il y a un gars qui m'a engagé dans son cabine. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient, des musiciens, des chanteurs. Tu sais, quand tu gères une cabine ou bien tu gères une boutique, c'est comme ça que je me suis vraiment engagé. Je suis parti juste pour 2 morceaux. Mais le fait que le morceau a été très bien chanté, il dit, Ibrahim, je suis prêt à te produire.
Ok, ok. Dans cet album, il y a combien de titres?
Il y a 8 titres. Il y a Agoben, Alwati, Aifara, Ndunya Kunda Fola Banda, Yemma Mara, Yemma Chou, Farikou Goufara. Mais mon premier album, c'est en solo, je l'ai chanté en solo.
D'accord. Alors, parlez-nous un peu de vos projets pour le futur.
Bon, tellement de projets à faire, mais avec la main vide, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Sinon, j'ai tellement de projets à faire, ainsi que j'ai un ami aussi qui me soutient beaucoup, Diego de Bourem. Bon, tu sais, souvent, même quand tu veux faire cette... On dit, quand tu es un artiste, pour pouvoir vraiment aimer ton travail, pour pouvoir vraiment percer, il faut collaborer avec les artistes. Ce n'est un artiste qui a toujours fréquenté avec des cultivateurs. Tôt ou tard, il sera un cultivateur.
Nous sommes quasiment à la fin. Hein? Alors, on vous demande de nous faire un petit a cappella sur Ifara.
Ok. Goyku si barakai nadamwan dunya Ifara Ainera jinjimbere nyamakuji Ifara idamal banatere yuchan Ifara inera butigi azare ara Ifara.
Voilà, chers amis, c'était là Ibrahim Djadje Napo. Merci donc à lui et à très bientôt pour d'autres numéros.
Sanfina Shuro Divile Dona. Sanjibale nana.
Mais est-ce que tu savais que c'est lui qui chantait la chanson là?
Exactement, Maram Fana.
Ah, tu savais ça?
2004, c'est tout près là.
2004, c'est tout près.
C'est tout près.
Alors, on continue donc avec notre émission.
Le proverbe de la semaine dit « Répondre au coup de pied des nanes, c'est se comparer à lui », une citation bambara.
L'explication derrière ce proverbe est donnée par un ancien de Tomiya au micro de notre correspondant Isiaka Koulibaly.
Monsieur Modibo Dambélé, vous êtes président du RECOTRAD, réseau des communicateurs traditionnels du cercle de Tomiya. Il y a un adage bamana qui dit que si l'âne te donne un coup de pied, si tu lui réponds, tu deviens comme lui. Qu'en pensez-vous?
Répondre au coup de pied d'un âne, c'est se comparer à lui. L'âne ne réfléchit pas. Ce langage-là veut nous parler du pardon, de la tolérance, de la très bonne cohabitation. Quand quelqu'un te fait du mal, ne te venge pas. Si nous continuons à payer le mal par le mal, ce monde-là restera toujours barbare et sauvage. La tolérance est la mère de la paix.
Autrement dit, ne jamais répondre coup par coup, c'est ce que ce proverbe veut dire.
Exactement, Mariam.
Mais
comme tu as l'habitude de le faire.
Nous avons cette tolérance-là de nos jours.
Non, surtout pas toi, hein.
C'est tout. Moi, je suis très tolérante. Hein. Je laisse passer des choses. Là, j'enseigne. Là, j'enseigne la sagesse.
Je suis sûre que si je te donne un coup, là, tu vas...
Mais ça, c'est toi. Je peux le faire, mais pas autrui quand même. Tu es ma bonne petite.
Ainsi prend fin cette émission qui vous a été présentée par Hamsetou Gogotouré et Maria Meiga. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter cette production à tout moment sur notre site web au www.studiotamani.org.
À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Grand merci à vous pour la fidélité renouvelée au quotidien.
Merci à toutes et à tous. Bye.